La CNASIM, Chambre nationale des agents commerciaux en immobilier, vous parle sur Radio Immo.
Bonjour à tous, on va parler d'une profession importante, cruciale, en plein développement, avec quelqu'un qui les connaît très bien, Jean-Yves Frappin, c'est le secrétaire général de la CNASIM. Jean-Yves Frappin, bonjour.
Bonjour Fabienne.
Merci d'être notre invité. Alors quand même, un petit mot d'introduction pour cette série d'émissions, pour rappeler, pour ceux qui l'ignoreraient encore, si c'est possible, qu'est-ce que c'est la CNASIM? Je rappelle, le libellé, Chambre nationale des agents commerciaux en immobilier, mais ça suffit pas, quelques mots comme ça. Qu'est-ce que ça recouvre? Parce que c'est une force importante.
Oui, c'est une force importante puisque depuis 2006, le statut a vraiment été reconnu par l'article 4 de la loi Hoguet, qui dit que à partir du moment où un négociateur n'est pas salarié d'une agence immobilière, eh ben il a l'obligation de s'inscrire au registre spécial des agents commerciaux. C'est donc un agent commercial, c'est donc un travailleur indépendant avec le statut de profession libérale. Il est soumis au BNC, bénéfices non commerciaux, et il doit exercer son activité au nom et pour le compte d'une agence immobilière, mais en toute liberté d'action, si ce n'est bien sûr le devoir de loyauté et le devoir aussi réciproque d'information, puisque toute organisation, on doit échanger.
Ouais. Alors la CNASIM a été fondée en 2004, fin 2004. À quel moment avez-vous rejoint d'ailleurs l'aventure?
Écoutez, ça a été très simple. Il y a eu deux arrêts de cour de cassation en 2004 qui ont dit que les négociateurs indépendants ne pouvaient pas bénéficier du statut de l'agent commercial. Donc nous avons eu à l'époque des gens comme Jean-Claude Cotémoine qui avait donc démarré l'aventure avec Capifrance, qui avait 70 agents commerciaux à l'époque. Et il y en avait un autre qui s'appelait Roland.
Ça va vous venir.
Ouais, ça avait, qui avait monté Inimo. Et donc les préfectures, puisque c'était les préfectures à l'époque qui délivraient les habilitations professionnelles, ne pouvaient plus leur délivrer. Donc l'expansion de ces agences immobilières avec des mandataires était complètement bloquée. Donc là, il s'est trouvé aussi une solution. À l'époque, moi, j'étais président de l'IFAC, de l'Institut de formation des agents commerciaux, et j'étais vice-président de la Fédération nationale des agents commerciaux. Et bon, je m'occupais surtout du problème de formation et juridique. Et donc la fédération, donc il y avait 12 membres au comité directeur, chaque président de région. Il y a eu donc un vote pour savoir si on devait conserver donc les agents commerciaux de l'immobilier qui n'étaient plus des agents commerciaux ou pas. Bon, ma motion était de dire on va créer une chambre de mandataires rattachée à la fédération. La voix du président, 6-6, la voix du président étant prépondérante, donc ils ont été virés. Et c'est à la suite de ça, donc avec un agent commercial qui était un agent commercial en immobilier, Jean-Philippe Guillard, tous les deux, nous avons créé la CNASIM le décembre 2004. Nous sommes battus, bien sûr, nous avons créé le contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle et le RCE, parce que ça n'existait pas, et l'agent commercial en étant indépendant risquait de perdre sa maison s'il était condamné pour une faute quelconque qu'il avait commise. Donc nous avons créé ce contrat-là qui depuis est rendu obligatoire de par la loi Allure de Madame Duflot. Et puis nous sommes battus, et puis le 13 juillet 2006, lors d'un amendement pour l'article 97 de la loi LENL, cet article qui disait que à partir du moment où une personne n'est pas négociateur salarié d'une agence immobilière, et c'est à la suite de ça, avec le digital, qu'on a vu fleurir tous ces réseaux de mandataires, les premiers. Donc c'était Capifrance, c'était Optimum, ça a été propriété privée, et d'autres, bien sûr. Comment Malik Benjelal est arrivé donc en mai 2008 avec Jérôme Savin, ils ont créé IAD, qui est aujourd'hui la plus importante agence immobilière de France, puisqu'ils ont 13 000 agents commerciaux, sans compter l'Espagne, l'Italie et puis d'autres, le Mexique, je crois. Voilà. Donc le contexte est, ça, on peut dire que la Gnassim, grâce à ses actions, a quand même participé fortement à la création de ces nouvelles formes de vente de par réseau de mandataires. La deuxième action que nous avons menée, c'est que en 2008, quand Monsieur Novelli a sorti son projet de loi sur l'auto-entrepreneur, les métiers de l'immobilier en étaient exclus. Donc nous sommes montés au créneau et là j'ai réussi à faire passer dans le sens que un agent commercial est une profession libérale qui est un prestataire de service pour une agence immobilière et que je vois pas pourquoi il n'aurait pas bénéficié du statut de micro-entrepreneur. Il m'a entendu et donc les agences immobilières n'ont pas le droit de travailler en micro-entreprise alors que les agents commerciaux, là, ça représente 55% des 69 000 agents commerciaux en immobilier qui existent en France.
Pour se rendre compte ce que représente la Gnassim, c'est important. Vous avez combien d'adhérents
Nous allons terminer là 9 000 adhérents. Non, évidemment, ça représente 15% du potentiel, si vous voulez. Mais quand on voit le résultat des autres syndicats, qui sont entre 9 et 10%, donc on nous sommes pas trop mal.
Absolument, bravo. Bon. On peut retrouver sur votre site. Vous organisez des réunions de manière à partager les bonnes pratiques, vous alertez ces agents commerciaux sur les différentes évolutions réglementaires et vous-même vous expliquez, vous clarifiez ce cadre évolutif et qui n'est pas toujours en leur faveur. C'est ça ce qu'on peut trouver à la Gnassim ?
Oui, c'est la Gnassim, en fin de compte, c'est la défense collective et individuelle des agents commerciaux et immobiliers. Mais beaucoup d'agents immobiliers me questionnent aussi pour éviter qu'ils fassent des erreurs.
Bien sûr.
J'ai parmi les grands réseaux qui existent, j'ai quand même des amitiés puisque il faut dire que quand même je les ai pas mal aidés
à se développer.
Et donc je suis en contact régulier avec les principaux patrons des grands réseaux de mandataires de France, et sans compter donc l'agent immobilier traditionnel, si vous voulez, qui lorsqu'il a un sujet, nous appelle pour éviter de faire des fautes qui l'endommageraient dans ses relations avec l'agent commercial. Donc, l'agent immobilier a besoin de l'agent commercial, parce que c'est quand même la souplesse et puis d'éviter quand même des charges fixes, comme l'agent commercial a besoin de la carte T de son agent immobilier pour pouvoir travailler.
Exactement. Voilà. Et puisqu'on entame cette série d'émissions pour vulgariser, communiquer sur les dernières actualités du moment pour vos publics. Un petit mot de vous, je sais que vous êtes modeste, Jean-Yves Frappin, mais on a la chance d'avoir quelqu'un qui a accumulé des expériences dans des secteurs différents et c'est pour ça que vous êtes capable de vous mettre dans la peau de différents points de vue, bien sûr, pour défendre les intérêts des agents commerciaux en immobilier, mais parfois ça demande d'avoir les ficelles de bien appréhender à la fois les domaines juridiques, mais les astuces financières aussi. Hein. Vous pouvez nous parler un petit peu de vous, un petit parcours de présentation, s'il vous plaît.
Écoutez, j'ai été cadre, puis cadre supérieur dans une filiale de Publicis, une filiale de L'Oréal, puis moi-même j'ai dirigé donc
des entreprises.
J'ai été aussi un des tout premiers à aller en Chine pour acheter des produits avec des bons rapports qualité-prix et puis créer une société de qualité pour surveiller la qualité des produits en fonction des cahiers des charges. J'en ai fait par la suite mon mon propre métier, puisque j'ai quand même toujours encore une activité avec la Chine. Ma compagne est chinoise, mais voyez-vous, ça fait 2 ans que je l'ai pas vue, puisque elle peut pas sortir et moi je peux pas y aller. Bon, enfin bref. Et donc, si vous voulez, ensuite, j'ai décidé un beau jour, il y a 28 ans maintenant, de dire, après tout, ce que j'ai fait pour les autres, je vais le faire pour moi. Et donc, je suis parti en Chine et je me suis associé avec un Chinois et nous avons donc créé donc une société de sourcing, de qualité, suivi de qualité, logistique et tout ça. Et nous avons importé pour nos clients jusqu'à 400 containers par an.
Mais aujourd'hui, avec tous vos rapports et les contacts que vous avez dans l'immobilier, vous êtes devenu un petit peu... Oui. Le point de contact dès que les gens ont un problème, quand même, dès que les agents commerciaux ont un problème.
Oui, bien sûr, oui, c'est la fonction même du syndicat. Nous sommes là, nous sommes à leur écoute, et si on leur donne les informations nécessaires. Alors, attention, je dis bien les informations. Nous sommes pas conseil. Je ne veux pas empiéter sur le travail des avocats.
Voilà, c'est important de préciser les choses.
Je donne des conseils. Bon, j'ai été aussi dans ma vie juge au tribunal de commerce de Nantes, donc j'ai suivi des cours de formation à l'école nationale de la magistrature, et puis je peux dire que même depuis maintenant 15 ans, la loi Auguet, je la connais pas mal.
Alors on va parler de droit justement, allez, avec un premier sujet pour commencer notre série, parce que c'est un sujet qui se pose fréquemment, la requalification d'un contrat d'agent commercial. Pourquoi est-ce que c'est un problème, Jean-Yves Frappin ?
Eh ben, c'est un problème pour une raison très simple, c'est qu'il y a de plus en plus de procédures qui se font devant les conseils de prud'hommes, voire même des redressements qui sont faits par les contrôleurs de l'URSSAF ou la DGCCRF. Et ça peut coûter très très cher à un agent immobilier qui considère son agent commercial comme un salarié. Donc la loi, elle est très claire. L'agent commercial en immobilier est un indépendant. Il travaille au nom et pour le compte d'une agence immobilière. Et il ne doit pas faire de permanence. Il ne doit pas tenir un bureau. Il peut venir, bien sûr, dans une agence pour accompagner un client ou apporter des documents, échanger avec son mandant qui est donc l'agent immobilier. Mais il n'en est pas question qu'il ait un bureau, même si certains détournent en disant, je vais vous faire payer 50 ou 60 euros la location d'un bureau à l'intérieur de mon agence. Les contrôleurs de l'URSSAF et de la DGCRF sont pas idiots. c'est du bricolage, j'appelle ça du bricolage, et puis c'est tout. Mais quand ça arrive devant le tribunal le conseil des prud'hommes, ça peut coûter très très cher. Le dernier exemple que j'ai depuis pas plus tard qu'il y a 15 jours, au total ça va coûter, car pour seulement 12 mois d'activité en tant qu'agent commercial au sein d'une agence, ça va coûter 48 000 euros à peu près, sans compter les frais d'avocat.
Ça pèse lourd. Et alors, il y a le point de vue, les agences traditionnelles, peut-être sans, à tort ou à raison, sans malveillance, elles ont tendance à utiliser ces agents, et puis petit à petit, tout le monde se retrouve dans une impasse, quoi.
Malgré les avertissements de leurs
représentants syndicaux,
comme la FNAIM, l'UNIS ou le NCPI, malgré l'avertissement de master franchise, etc. Vous avez toujours des petits plaisantins qui changent les contrats types, si vous voulez, qu'ils peuvent leur fournir. Et puis, dedans, ils se font allumer parce que ils mettent trop de directives. Moi, vous savez, le contrat type de la CNASIM, c'est 2 pages.
D'accord.
C'est 2 pages. Et on se retrouve souvent avec des contrats qui font une vingtaine de pages, avec des non-sens et des contredits dedans, qui fait que automatiquement, eh ben, ça alimente, enfin, les conseillers prud'homaux qui disent, bah, attendez, regardez, vous avez dit ça, vous avez fait ceci.
Le mieux est l'ennemi du bien. Il vaut mieux de pas, finalement.
Exactement.
C'est déjà un premier conseil, hein.
À partir du moment où on met dans un contrat, faut respecter la loi Hoguet, faut respecter la loi sur les agents commerciaux, c'est-à-dire les articles 134.1 et 134.17 du Code du commerce, qui est donc d'ordre public, hein, comme le, je rappelle que le terme agent commercial est d'ordre public européen. C'est une directive de décembre 86, comme l'agent immobilier est aussi d'ordre public.
Bon. Oui, je ne sais pas si une définition, on va en parler tellement, des agents commerciaux, ça paraît évident, mais peut-être que ça obéit, ce statut, à des critères très précis. Est-ce que vous voulez les rappeler ?
Bah, je vous dis, c'est les articles 134.1 à 134.17 du Code du commerce, qui sont très clairs dans les relations entre un agent commercial et son mandant, ainsi que l'article 4 de la loi Hoguet, 6 et 9 de la loi Hoguet, et à partir de là, tout est clair.
C'est vrai.
Et vous avez des gens qui transgressent en voulant imposer leur diktat à des professions libérales qui sont des travailleurs indépendants. Voilà. Donc les conseils de prud'homme, les redressent et puis c'est tout. Voilà.
C'est très clair, Jean-Yves Frappin. Pour cette première émission, c'est déjà fini. Les sujets, par contre, sont inépuisables. Je vous propose de nous retrouver pour la prochaine émission pour un nouveau sujet, pour bien clarifier tous ces enjeux problématiques que connaissent les agents commerciaux en immobilier. On était avec la CNACIM, la Chambre nationale des agents commerciaux en immobilier. On avait la chance d'écouter son secrétaire général, Jean-Yves Frappin. Merci pour cet entretien, Jean-Yves Frappin. Merci.
Merci. Merci Fabienne.
La CNACIM vous parle, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.